la question, justement, où le désaccord est complet, c'est que nous sommes à l'époque de la publicité. C'est l'horreur du monde moderne qui fait de publicité. Donc, je serais partisan de la modestie, à savoir que ce qui compte, c'est l'objet.
La chronique de Mister Sinalco, la chronique de Mister Sinalco, la chronique de Mister Sinalco.
Bonjour, Monsieur Sinalco.
Bonjour.
Monsieur Sinalco, aujourd'hui, vous avez décidé de nous éclairer au sujet d'un texte, la lettre à Monsieur d'Alembert sur les spectacles par Jean-Jacques Rousseau.
En effet, j'ai été frappé au cours des émissions de ces dernières semaines de voir à quel point la question du divertissement dans ses rapports avec la politique occupait nos esprits. Or, ce texte, publié à Amsterdam en 1758, résonne étrangement avec cette préoccupation actuelle.
Avant de comprendre comment diable un texte vieux de 3 siècles pourrait nous aider à réfléchir sur des problèmes brûlants, voudriez-vous nous en dire un peu plus sur cette lettre, sur les spectacles ?
Mais bien volontiers. Vous savez que l'immense projet éditorial du XVIIIe siècle, qu'est l'Encyclopédie, ne se limite pas à une compilation des connaissances existantes. Il s'agit d'un acte politique par lequel les encyclopédistes entendent prendre parti dans des questions de leur temps. Dans l'article « Genève de l'Encyclopédie », d'Alembert milite ainsi pour l'installation d'une troupe permanente de théâtre dans cette république indépendante et fortement marquée par l'esprit de la réforme, et en particulier celui de Calvin. Le texte de Rousseau est, comme le titre l'indique, une réponse à cette proposition d'installer un théâtre de comédie à Genève.
Il faut rappeler qu'à l'époque, Genève ne dispose pas de théâtre permanent. À quelques occasions, lorsque les troupes françaises se massent à proximité de la République de Genève, des compagnies théâtrales s'installent, à Ferney par exemple, pour divertir les soldats.
Vous avez raison. Les ordonnances dites « somptuaires » de 1617 interdisent la pratique du théâtre à Genève. Elles règlent d'une manière générale toute la morale publique de la jeune République. Elles réglementent drastiquement la danse, la manière de s'habiller, de fréquenter les auberges, de publier des livres, etc. Lorsque l'on évoque dans le grand public l'esprit calviniste de Genève, c'est souvent à ces ordonnances de 1617 que l'on fait, qu'on le sache ou non, référence.
Cependant, le XVIIIe siècle genevois est marqué par des troubles politiques assez récurrents, non ?
Oui, c'est exact. En 1704 à 1707, en 1718 et plus tard en 1734-1736, Genève connaît des amorces de guerre civile. La population genevoise est divisée en 2 catégories. Les citoyens ou bourgeois qui disposent des droits politiques, participation au conseil et éligibilité, et les habitants ou natifs qui en sont dépourvus. Cette division recoupe une division géographique. Les citoyens habitent ce qui est aujourd'hui la vieille ville, la partie haute de la cité, tandis que les habitants habitent la basse ville, notamment le quartier de Saint-Gervais, d'où est originaire Jean-Jacques Rousseau. Les émeutes, assez violentes, qui se déroulent tout au long du XVIIIe siècle, opposent ces 2 classes d'habitants. Les natifs prétendent obtenir des droits politiques au motif qu'ils représentent la classe productrice de la cité. Ils sont notamment horlogers, joailliers, etc. Lors de ces troubles politiques, les citoyens feront par exemple tamponner, c'est-à-dire boucher, les canons de la garde pour empêcher que l'opposition ne s'en saisisse. Cela leur vaudra le surnom de tamponneurs. Quoi qu'ils en disent eux-mêmes, qui tiennent à l'image de la République, ils forment une aristocratie fermée, et très repliée sur elle-même.
Mais revenons à la question des spectacles, Monsieur Sinalco.
J'y viens. Ne vous impatientez donc pas, voyons. Paradoxalement, les partisans de l'installation d'une compagnie de théâtre à Genève sont les aristocrates. Ils y voient un moyen de calmer les troubles politiques, et ils le disent explicitement. À l'instar du procureur général Jean Dupont, qui en 1737 déclare devant le Conseil des 200 « Je réitère la proposition faite séant ». Il y a quelques mois, d'introduire une bonne compagnie pendant quelques mois de l'année, parce que ces sortes de divertissements sont du tout incompatibles avec la tristesse des passions fâcheuses et le sérieux de la politique. le Pani, et Circenses, des Grecs et des Romains, étaient la route la plus sûre au dire de leurs législateurs pour détourner le peuple de la critique du gouvernement.
Voilà qui est très clair, monsieur Sinalco.
En effet, pour rendre la chose plus claire encore, j'ajouterai, si vous le permettez, un élément de contexte international.
Oui, vous voulez bien aborder les liens entre Genève et le Royaume de France, par exemple.
Absolument. Les banquiers privés genevois prêtent des sommes considérables à l'État absolutiste français. La stabilité politique de la République est une nécessité absolue pour les finances de la France. À l'occasion de chaque émeute à Genève, les troupes françaises, et je ne parle pas de théâtre, se massent autour de la ville, prêtes à intervenir pour soutenir l'aristocratie genevoise et comble du paradoxe pour la fille aînée de l'Église, la banque protestante. En 1738, Monsieur de Lautrec, l'envoyé extraordinaire du roi pour apaiser les troubles survenus cette même année, n'aura d'autre priorité que de faire installer une compagnie de théâtre.
C'est donc dans ce contexte que D'Alembert soutient l'installation du théâtre à Genève, tandis que Jean-Jacques Rousseau la conteste pour lui.
À la bonne heure, à la bonne heure. Rousseau s'est trouvé de nombreuses fois en but à la censure de l'aristocratie genevoise. Ses deux ouvrages, L'Émile et Du contrat social, sont brûlés à Genève. La lettre à D'Alembert elle-même paraît à Amsterdam pour éviter la censure. En réalité, dans ce texte, Rousseau prend parti contre le théâtre. Et plus largement, le divertissement, en tant qu'outil de pacification politique.
C'est en cela que ce texte résonne avec nos réflexions actuelles sur la culture.
C'est cela, oui. Rousseau soutient dans ce texte l'idée que le divertissement devrait être produit par ceux-là même qu'il s'agit de divertir. Rousseau veut abolir la barrière entre spectacle et spectateur. Il écrit ainsi « Donnez les spectateurs en spectacle, rendez les acteurs eux-mêmes ».
Tout de même, ce texte est aussi une charge moralisante qui défend une conception à tantinet virile de la fête.
Oui, Rousseau défend dans cette lettre des fêtes patriotiques, comme le roi de l'arquebuse ou de la navigation, au cours desquelles les hommes se mesurent dans des épreuves sportives. On verra, une fois la révolution radicale accomplie au milieu du 19e siècle, que ces fêtes et ces sociétés deviendront des fantômes pathétiques dépourvus de toute charge subversive. De même, sa défense des bals comme prélude au mariage n'est guère engageante. Mais ce texte a trop souvent été réduit à cette lecture, et il convenait, je trouve, de lui restituer sa part contestataire.
Oui, nous n'oserions vous contredire sur ce point, monsieur Sinalco, ce d'autant que, moins de 10 ans après la publication de la lettre à D'Alembert, le point de vue de Rousseau se trouvera en partie confirmé.
C'est exact. En 1766, à la demande des ambassadeurs plénipotentiaires français intervenus pour pacifier les émeutes de 1762, on installe une comédie à Genève. Dans la nuit, du 29 au 30 janvier 1768 déjà, le bâtiment est détruit par les flammes. Le résident français à Genève, Pierre-Michel Hénin, parle alors d'attentat. Avec Voltaire, qui tempête depuis Ferney, il accuse les représentants, c'est-à-dire le parti des natifs, des habitants de la basse ville, d'avoir incendié l'édifice. On voit bien par là à quel point le divertissement spectaculaire était, 220 ans avant Françoise Buffat, chargé d'un rôle d'éteignoir politique, si j'ose dire, à propos d'un incendie.
Eh bien, merci, monsieur Sinalco, pour tous ces éclaircissements.
Mais je vous en prie.